C'est ça. Oui, vous m'entendez bien, là, ça va? Bien. Allez. Mais nous, c'était difficile de ne pas parler de tout ce qui s'est passé ces temps dans l'Église catholique, hein, avec la levée de l'excommunication des 80 intégristes, et puis tout l'intervention d'un des évêques, Williamson, hein, négationniste, et puis en même temps, comment les réactions qui se sont fait entendre, hein, et on pense que 74% des Français, d'après les sondages, n'ont pas été d'accord avec le pape. Il y a eu beaucoup de réactions, même de la part des épiscopats allemands, des épiscopats autrichiens, et il y a aussi une déclaration de l'épiscopat français. Alors, on va, je sais pas, je vais d'abord, si vous voulez, resituer la question. Je crois qu'il est bon qu'on soit clair de l'enjeu, hein, de ce, qui est, ce qu'on appelle la fraternité saint-pilis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les intégristes dans l'Église, hein, comment ils sont nés, et donc ce qui est en jeu. Deuxièmement, on verra l'attitude de Benoît XVI, qui veut qu'on par souci d'unité de l'Église, hein, et puis troisièmement, nous verrons les réactions, et nous terminerons par la lettre qu'a envoyée Benoît XVI aux évêques. Alors, une première chose. D'abord, il faut bien resituer la question des intégrés. Ce n'est pas la messe en latin ou en français. Hein. Le problème n'était pas là. Parce que la messe en latin, c'est simplement l'émergence. Hein. Mais ça va même très loin. Parce que là, on est en face d'un problème culturel fondamental. C'est-à-dire que le courant intégriste dans l'Église catholique de France s'est enraciné dans tout un mouvement qui était politique au XIXe siècle et au XXe siècle aussi, hein, la première moitié du XXe siècle, qui était le courant de l'Action française, de Charles Maurras. Et ce courant, qui était donc contre la Révolution française, conduit dans un mouvement de restauration politique en France, anti-républicain fondamentalement, monarchiste, et utilisant l'Église justement pour une certaine conception de la société. Il ne faut pas oublier que ce mouvement a été condamné par Pie XI, parce que justement il figeait le catholicisme dans un choix politique particulier. Alors Pie XI l'a condamné, et au moment de cette condamnation, il y avait des évêques, même en France, et un courant du clergé qui était Action française. Il ne faut pas oublier qu'à Rome, il y avait un cardinal qui s'appelait le cardinal Billot, auquel le pape lui a enlevé le titre de cardinal et ses fonctions. Et il y avait, plus que ça, le supérieur du séminaire français de Rome, qui était un spiritain, qui était Action française, qui a été enlevé. Et à ce moment-là, le Fèvre était élève séminariste. Hein, il a suivi son supérieur, il est rentré chez les Pères du Saint-Esprit à l'époque. Donc, vous voyez, il y a déjà tout un enracinement. Hein. Donc, ça veut dire qu'au fond, notre foi, elle se vit toujours dans une culture. Mais la foi doit toujours évangéliser la culture. Hein. Si on n'évangélise pas les cultures, on n'évangélise rien. Hein. Ça, c'est clair. Alors, elle se vivait dans une culture, et cette culture, eh bien, c'est la culture de l'Occident. L'attachement au latin, c'est plus qu'un rite. C'est l'attachement à une civilisation. Comprenez ? C'est l'attachement à l'Occident. Et mais Lefebvre, ensuite, chez les Pères du Saint-Esprit, est devenu évêque. Il a même été délégué apostolique en Afrique de l'Ouest. Et ensuite, il a fini archevêque de Dakar. Et à ce moment-là, il y a un pape qui est venu, qui était Jean XXIII, qui sentait le signe des temps. Comme le paysan, il sent hein, le temps qui vient, il sentait le temps de l'histoire. Alors le temps de l'histoire, ben, il sentait la décolonisation. Et qu'il fallait préparer une église présente, mais une église africaine. Alors il avait demandé à tous les évêques européens en Afrique de démissionner pour laisser la place à des évêques africains. Lefebvre est archevêque de Dakar. Il ne voulait pas partir, parce qu'il a fallu que Léopold Senghor s'y mette aussi. Hein. Mais pour lui, le départ des évêques français et de la présence française, même de la colonisation, il faut bien dire, représentait pour lui le départ de la véritable civilisation chrétienne. Alors on était encore dans ce contexte, on est encore dans ce contexte, dans cet esprit-là, d'une civilisation chrétienne, comme s'il existait une civilisation chrétienne. C'est des civilisations humaines qui ont besoin d'être évangélisées. Alors, vous voyez, l'esprit qui était là. Alors, Lefebvre, à ce moment-là, était avec de Tulle, et le concile est il était supérieur, et même était supérieur en général, des pères du Saint-Esprit après. Et au concile, il y a Vatican II, il y a un certain nombre de décrets de Vatican II avec lesquels il n'était absolument pas d'accord. Quels sont ces décrets sur lesquels il n'était pas d'accord? C'était, évidemment, l'œcuménisme. C'est ce qu'on dit, l'Église catholique à la vérité, pour pas qu'elle échange avec d'autres. C'était la déclaration Nostra Aetate, donc les relations avec les religions non chrétiennes, et puis surtout, le décret sur la liberté de conscience. Ce qui disait que la liberté de conscience, c'est laisser l'homme à lui-même, et l'homme n'est pas capable de découvrir par lui-même la vérité. Et au cœur de tout ça, c'est aussi toutes les relations de l'Église dans le monde, dans le monde moderne, hein, ce fameux décret sur l'Église dans le monde de notre temps. Et dans lequel ce décret apportait quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, il ne disait pas Église et le monde, Église face au monde, mais Église dans le monde. C'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'elle participe profondément à toute la vie des hommes. Alors, pour lui, c'est un décret sous ces aspects de Vatican. C'est à ce moment-là qu'il a fondé une société sacerdotale qui s'appelle la Société Saint-Pilice. Pourquoi Pilice? Parce que Pilice était le pape de l'anti-modernisme, il ne faut pas oublier. Hein. Donc, c'était Saint-Pilice, qui ensuite bon, a été admis au point de départ, et ensuite il a fondé un séminaire, et la théologie qu'il enseignait dans le séminaire ne correspondait pas du tout à Vatican. Alors, c'est devenu une attitude contre Vatican. Alors, je dis ça parce qu'il faut qu'on situe bien l'affaire. Hein. Ce n'est pas une question de rite, c'est une question de culture, une question de conception de l'Église, une conception, j'allais dire même plus loin, de l'homme, parce que c'est très la liberté de conscience. Oui. Donc, c'est toute la conception d'une Église qui est un peu la forteresse au cœur du monde. Hein. Et non pas, comme dit l'Évangile, les paraboles, le levain dans la pâte, hein, mêlé profondément aux gens. Voilà. Alors, de là, il y a eu cette position qui allait très loin en disant Vatican II n'est plus l'Église catholique. Et même sa position allait très loin. Le pape n'est plus catholique. Donc ça veut dire que pour lui, l'Église, là c'était, le fils était protestant. Donc je dis, restant dans Vatican II, pas mal de ses prêtres qui étaient dans le même courant disaient, nous ne voulons pas mourir protestants, nous voulons mourir catholiques. Il faut être clair hein, là-dessus. Hein. Moi j'ai rencontré des prêtres qui m'ont dit ça, hein, oui, qui n'acceptaient pas, en particulier la messe de Paul VI, vous voyez, parce qu'elle disait. Alors en même temps aussi, c'était l'anti-révolution française. Il ne faut pas qu'on l'oublie, ça aussi. Hein. Parce que pour Lefebvre, le mal fondamental venait de la révolution française. Et que le Concile Vatican II était imprégné des idées de la révolution française. Voilà. Alors là, on est. Donc il a ressenti, il disait ça, c'est plus l'Église de toujours, c'est plus l'Église catholique. Si bien qu'après, il a décidé de faire lui-même sa propre église en ordonnant 4 évêques. C'est-à-dire que lorsqu'il ordonne 4 évêques sans lien avec le pape, ça veut dire qu'il serait une église à lui. Hein? Alors, par le fait même, il a été excommunié, c'est-à-dire il n'y a même pas de décret d'excommunication, il s'est excommunié lui-même, hein? Puisqu'au fond, il se fait son église absolument séparée de l'autre. Et là, je me souviens, il avait eu un moment quand on disait « Tu as fait un schisme, tu es schismatique », il dit « Moi, je suis schismatique, mais le pape est hérétique ». C'est-à-dire que ce qui est dit ne correspond plus à la foi catholique. Alors, vous savez ce qui s'est passé par la suite, c'est un mouvement qui a pris pas mal d'ampleur. Enfin, on ne sait pas bien le nombre d'adhérents, 150 000 catholiques à peu près, hein. Mais il y a un nombre quand même important de prêtres dans ce mouvement. D'ailleurs, Benoît XVI cite dans sa lettre aux évêques, il y a 491 prêtres dans le monde, hein, 491 prêtres, 215 séminaristes dans le monde, 6 séminaires, 88 écoles et 2 instituts universitaires. Hein. Donc ça prouve que c'est un mouvement qui, est, bon, qui a pris son importance. Hein, voilà. Son importance, quand même, disons, il y a quand même, je ne sais pas combien, 700 000 prêtres dans le monde. Voilà, ils sont, hein, ils sont 400, bon, enfin, c'est quand même un mouvement. Alors, il y a déjà eu un certain nombre de. On a essayé de faire des ponts, hein, le pape, avec eux. Enfin, vous savez comment ils ont occupé l'église de Saint-Nicolas de Chardonnay, à Paris, oui. D'ailleurs avec des membres de l'OAS, hein, des anciens membres de l'OAS, voilà, qui avaient bien mené cette occupation. Parce que pour eux, nous ne voulons pas rentrer dans les églises telles qu'elles sont maintenant, parce qu'elles sont plus catholiques. Hein. Donc il faut que nous faisions, nous, notre église catholique. Voilà. Alors, le. Bon, les tractations ont toujours échoué, et là, Benoît XVI, donc, voudrait maintenant essayer de le jeter un pont avec eux. Hein. Alors là, il a levé l'excommunication, il faut bien le dire, levé l'excommunication des 4 évêques, pas du mouvement. Hein. Et lever l'excommunication, ça ne veut pas dire qu'ils sont intégrés dans l'Église. Il faut faire attention. Hein. Ils sont toujours en dehors. C'est-à-dire que l'Église actuellement ne reconnaît pas le ministère de ses prêtres, vous voyez, et qu'ils ne reconnaîtraient pas l'ordination de prêtres faite par les évêques eux-mêmes. Voilà. Alors, c'est d'ailleurs là qu'il faut attendre, parce qu'il va y avoir des ordinations de prêtres au mois de juin. Est-ce qu'ils vont les faire sans lien? Évidemment, sans lien, puisque actuellement, c'est une période de négociation. Voilà. Alors, vous savez là-dessus que le pape donc avait déclaré la levée de l'excommunication le 20 janvier, et le 21 janvier, au soir, Mgr Wibbledon, c'est ce qui a remué beaucoup hein, l'affaire, hein, c'est de bien nier la Shoah, quoi, dans une télévision suédoise. Voilà. Alors, ce qui a créé beaucoup, bien sûr, la perturbation, et j'imagine aussi, dans le monde juif, hein, et donc c'était une négation historique profonde. Voilà. Alors là, bon, le pape, dans sa lettre aux évêques, reconnaît qu'il y a eu manque de communication. Alors, si vous voulez, je pense, c'est pareil, il dit bien. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis aussi, je vois là le rabbin, parce qu'il avait reçu. Le rabbin David Rosen, peu de temps après, qui est le grand rabbin d'Israël, hein, qui est en Israël chargé des relations interreligieuses. Et lui-même conclut en disant que c'est dans cette crise qu'il y a un manque de communication profonde, puisqu'il dit que le cardinal Hoyos, qui est chargé des contacts et négociations avec la communauté Saint-Pilice, n'en savait rien. Et enfin, le cardinal Caspar, chargé des relations avec le judaïsme, dit n'avoir pas été informé, et encore moins consulté dans cette affaire. Alors, il est bien, ce n'est pas la première fois dans le pontificat actuel. Il y a peut-être des choses au Vatican qui sont à voir, comme management, hein, et comme communication. Donc, il n'y a pas de communication vraiment entre les services, et dans sa lettre aux évêques, le pape lui-même le reconnaît. Alors, il demande ses excuses pour ce manque de communication, et il demande maintenant que lorsqu'il y a quelque chose sur Internet, hein, il faudrait quand même me le dire, voilà, si je ne sais pas. Voilà donc un peu la situation. Alors, la situation ensuite, ça a soulevé bien sûr un tollé un peu partout, et là, les amitiés judéo-chrétiennes ont réagi. Il y a un message des amitiés judéo-chrétiennes qui est dans le numéro 3 de Sens, je ne sais pas si vous l'avez lu, quelques-uns parmi vous, hein, et donc celui du mois de mars. Et là, ils disent, je vous le lis, hein, voilà. Le pape Benoît XVI vient de lever l'excommunication, décision juridique, okay, des quatre évêques qui avaient été excommuniés par Jean-Paul II en 1988. Il le fait sur la demande de Mgr Fellet, qui déclare reconnaître l'autorité du pape, l'enseignement de l'Église dans un esprit filial, tous les conciles jusqu'à Vatican. Alors, il dit, dans ce dernier cas, avec des réserves, nous acceptons et faisons nos tous les conseils jusqu'à Vatican II, au sujet duquel nous émettons des réserves. Et là, les métiers du chrétien disent, nous n'avons pas de peine à deviner lesquels, la réforme liturgique, la liberté religieuse, le dialogue écuménique, l'ouverture aux autres religions, ce que je viens de vous dire. La déclaration Nostra Aetate est donc visée, et en particulier son chapitre 4 sur les relations avec le peuple juif, ce qui risque de porter atteinte au dialogue. Certes, l'arrivée de l'excommunication ne supprime pas le schisme, ces quatre évêques et leurs prêtres devront reconnaître Vatican II pour entrer en pleine communion dans sa totalité. Après la prière pour les juifs du Vendredi Saint, qui leur a été concédé, et vous savez que cette prière, vous savez que la prière du Vendredi Saint, il y avait une formule auparavant, la prière universelle, qui disait « Prions pour les juifs perfides ». Les perfides, attention, dans son sens étymologique, ça voulait dire qu'ils se sont égarés dans la foi, perfidèle. Mais ensuite, on a mis le terme français « perfide », qui est terriblement péjoratif. Et là, vous savez que c'est Jules Isaac, qui était aux origines des amitiés judéo-chrétiennes, qui est allé trouver le pape Jean XXIII à l'époque, et qui a fait enlever cette formule. Mais, dans le nouveau missel, traditionnaliste, hein, du Concile de Trente, que Benoît XVI vient d'accorder même dans l'Église catholique, à pouvoir dire, alors là, la formule est encore assez marquante, dans laquelle elle dit, pour que notre Dieu, c'est la prière, hein, pour que notre Dieu et Seigneur illumine leur cœur, en parlant des Juifs, et qu'ils reconnaissent Jésus comme sauveur du monde. Donc là, c'est ce qu'on appelle à la conversion. Hein, qui n'est pas. Alors évidemment, c'est là une réaction que les amitiés judéo-chrétiennes ont portée. Hein. Alors, je continue un peu cette déclaration. Donc après la prière pour les Juifs du Vendredi Saint, il leur a été concédé un nouvel événement nous choque. L'un des quatre évêques, Mgr Williamson, se révèle être négationniste. D'un point de vue seulement canonique, nous voulons bien croire que cela n'a rien à voir avec la levée de l'excommunication. Mais il faudrait être absolument aveugle et sourd pour affirmer qu'il n'y a rien à voir ni à entendre entre la levée de l'excommunication et l'affirmation du négationnisme. L'indignation générale soulevée par les propos de Mgr Williamson prouve le contraire. Avec le négationnisme, nous plongeons dans l'abîme de l'idéologie des nazis qui voulant anéantir jusqu'à la racine le peuple porteur de la révélation de Dieu. Bien, il faut bien dire en effet que la persécution des juifs, c'était d'anéantir le judaïsme. Et c'était la négation, au fond, de toute la tradition judéo-chrétienne. Parce que pour Pionze, dans son encyclique qu'il avait lu contre le nazisme, qui s'appelle Mühlbrenner der Sorgen, c'était le fait que la persécution contre les juifs et la suppression des juifs, c'était peu à peu de supprimer, au fond, le Dieu de la Bible. Et donc les chrétiens eux-mêmes, pour revenir au Dieu qui était avant le christianisme. Donc c'était supprimer toute la civilisation judéo-chrétienne. Alors, je lis encore, là. Alors, la révélation de Dieu. La révélation de Dieu 1. Ont tout tenté pour montrer non seulement que le crime n'en était pas un, mais qu'il n'avait pas existé, et cela porte nécessairement atteinte au dialogue entre juifs et chrétiens. Ça veut dire qu'il porte que l'affaire de négationnisme n'est pas qu'une affaire d'un historique de persécution des juifs, il y avait une idéologie qui était dessous, donc qui était la négation, au fond, du Dieu 1, et au fond la foi judéo-chrétienne. Nous, membres catholiques de l'amitié judéo-chrétienne de France, attendons de l'Église une attitude moins ambiguë en ce qui concerne les relations avec le peuple juif. Cette volonté de favoriser la pleine unité à l'intérieur de l'Église catholique, légitime en soi, risque de causer des déchirures beaucoup plus grandes que celles qu'elle veut réparer. Et nous sommes certains qu'elle fait du mal à tous ceux d'entre nous qui s'efforcent de maintenir et de faire progresser un véritable dialogue amical et respectueux entre juifs et chrétiens. Là, donc, la déclaration des amitiés judéo-chrétiennes. Oui. Et en même temps, il y a ici un petit article du père Dujardin, vous connaissez, qui était l'ancien délégué pour les relations avec le judaïsme de l'épiscopat en France, dans lequel, je vous le lis aussi parce que c'est intéressant, il nous dit « Les intentions de Benoît XVI, exprimées dans le décret qui lève l'excommunication des évêques lefebvristes, décision canonique et non théologique, c'est-à-dire sur le contenu de la foi, s'efforcent de consolider les relations de confiance et de stabiliser les rapports avec la fraternité Saint-Ulysse et le Saint-Siège, et de supprimer le scandale de la division. Pardon. Cette décision ne fait donc pas disparaître le schisme, car, dit encore le décret de Rome, elle devra être suivie de la réalisation de la pleine communion avec l'Église, ce qui suppose une vraie reconnaissance du magistère et de l'autorité du pape, et donc l'acceptation sans réserve du Concile Vatican. Ça, c'est un des aspects importants. Et les évêques français aussi avaient une déclaration pour dire « Vatican II, en aucun cas, ne sera négociable. » On ne peut pas discuter, donc... Alors, voilà. Dans ces démarches, pour obtenir la levée de l'excommunication, Mgr Fellet, c'est le responsable de la fraternité Saint-Église, disait « Nous sommes toujours fermement déterminés dans notre volonté de rester catholiques. » Bien sûr, c'est ce qu'ils ont toujours voulu rester. Nous acceptons son enseignement. Nous croyons fermement à la primauté du pape et à ses prérogatives. Hein? Mais ça dépend quel pape, puisqu'auparavant, il disait « Notre pape actuel est hérétique. » Voilà. Et ajoutant une inquiétude, nous acceptons et nous faisons nos tous les conciles jusqu'à Vatican II au sujet duquel nous émettons des réserves. Alors vous voyez que là, le titre d'ailleurs de l'article du Père Dujardin, c'est « Double langage ». On est là dans un double langage. Quelle réserve ? S'agit-il seulement de la liturgie, comme on n'a pas cessé de le dire, parce que dans l'opinion courante, c'était une affaire liturgique, hein? Non. Non, car cette réserve a été levée par le motu proprio de Benoît XVI, en regardant la possibilité de célébrer la liturgie de Saint-Ulysse antérieure au Concile. Cette focalisation sur la liturgie nous égare sur la véritable divergence. En vérité, dès le début du schisme, Paul VI en relève le fondement. Que vous dites soumis à l'Église, fidèle à la tradition, par le seul fait que vous obéissez à certaines normes du passé. La tradition n'est pas figée. Qui bloquerait à un moment déterminé dans l'histoire la vie de cet organisme actif qu'est l'Église? Il revient au pape et au concile de porter un jugement pour discerner dans les traditions auxquelles il n'est pas possible de renoncer. Le dépôt de la foi pour faciliter la mission de l'Église à travers les temps, pour mieux traduire le message divin dans le langage de notre temps. Il n'est pas difficile de discerner à partir de là ce qui fut refusé par Mgr Lefebvre au numéro 4 de Nostra Aetate, qui appelait les catholiques à un renouvellement de leur regard sur le peuple. Dans cette perspective, le négationnisme de Mgr Williamson est grave, alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au-delà d'une pseudo-interprétation historique, il adhère à une idéologie qui, par le négationnisme de la Shoah, blanchit le nazisme dans sa volonté d'éradiquer l'éthique dont le peuple juif est la racine. Alors il faut dire aussi que depuis, on a demandé qu'ils fassent des excuses, parce qu'il a donné des excuses, mais il n'a pas renié ce qu'il a fait. Donc, on pense qu'il n'est pas assez allé assez loin. Hein. On peut interpréter cela pour dire « j'ai fait une maladresse et je m'en excuse », mais ce n'est pas exprimé sur le fond réel de sa pensée. Alors là, c'est toute la question. Et vous savez que depuis, il a été expulsé d'Argentine, hein, et que même le supérieur de Saint-Ulysse l'a démis de ses fonctions, hein, en Argentine. Voilà. Alors, il termine en disant, la fraternité a-t-elle renoncé aux déviances évoquées? On peut en douter. Quand le dimanche 25 janvier, le curé de Notre-Dame du Chardonnay, c'est l'église qu'ils ont occupée, hein, à Paris, a déclaré « La tradition catholique n'est plus excommuniée. L'heure est venue de montrer au pape, aux évêques, aux prêtres que la crise a pour origine le concile lui-même. » Alors c'est là que nous sommes dans un double langage. Et là, il faut attendre. Là, nous sommes actuellement à ce niveau-là. Hein. Donc, l'excommunication, c'est ouvrir le dialogue, hein, mais il faut voir un peu jusqu'où il peut aller, ce dialogue, hein, parce qu'ils peuvent se renouer, parce que leur raison d'être, c'est justement le refus de Vatican II. Hein. Ah oui. Et leur raison d'être, c'est justement le fait qu'ils veulent rester réellement l'Église catholique qui n'est plus depuis Vatican II. Alors voilà, alors là c'est le cas, mais le pape a bien dit, hein, parce qu'après il a rencontré des représentants juifs, le grand rabbin d'Israël. Et dans cette rencontre, il a bien voulu affirmer qu'il était toujours très en lien pour le dialogue chrétien et juif. Oui. Il le dit d'ailleurs dans sa lettre aux évêques, hein, il le dit. De fait, c'est un commentaire de cette lettre, hein. Le pape ne peut être soupçonné de revenir sur le rapprochement avec le judaïsme. Cette exigence existe, dit-il, dès le début de mon travail théologique personnel, comme le prouve le discours qu'il a qu'il a fait comme cardinal à l'Académie des sciences morales et politiques en 1995, où le document de la Commission biblique pontificale sur le peuple juif et ses saintes écritures, hein, donc ça, il reconnaît là, donc, et il reconnaît lui-même qu'il y a eu mauvaise communication. Alors, ce qui ressort après, ben, il a rencontré le grand rabbin, là, qu'il a d'ailleurs invité en Israël, hein, hein, le grand rabbin d'Israël, hein, parti des communications, là, avec les autres religions, et le dialogue, et dans cette... Dans cette invitation, bon, le rabbin dit qu'elle est résolue maintenant, nous pouvons considérer cette crise comme un fiasco administratif qui a causé 2 semaines de troubles et qui est désormais derrière nous. Enfin, je ne suis pas encore sûr, hein, qu'il est derrière nous. Enfin, ouais. Donc, il y a l'invitation qui a été faite au pape en Israël, et d'autre part, c'est toute une recherche qui maintenant doit se faire. Le point qui est quand même clair, c'est que Vatican II n'est pas négociable. Les évêques français aussi l'ont dit dans leur déclaration. Alors, ce que peut dire comme conclusion, quoi, hein, un peu, c'est ça. C'est que cette crise, voilà, ça révèle un peu ce que l'Église catholique est appelée à vivre à l'heure actuelle, parce que dans sa lettre aux évêques, le pape souligne sa souffrance d'avoir été incompris, okay, que les catholiques sentent cette déchirure au sein de l'Église. Okay. Mais je pense là à la conclusion que disait le vicaire général de Liège. Il dit... il y a eu beaucoup de prises de position, certaines excessives, peut-être quand ils ont réagi contre ça, contre le pape, hein, oui, mais nous devons nous former à une culture du débat, nous sommes en train de faire l'apprentissage de Vatican II. Au fond, cette crise nous fait l'apprentissage du Vatican II, hein, qui a été le grand conseil du débat. Hein. Car vous savez que Vatican II a failli aussi, à ce moment-là, enfin, ça, c'est de la petite anecdote, mais c'est bon de le savoir. Hein. C'est que tous les différents décrets étaient écrits et c'était simplement chaque évêque disant s'il la pouvait ou non. Il n'y avait pas de débat. Aussi bien que les évêques français, le cardinal Liénard et d'autres, l'évêque de Frings qui était à Cologne, et puis l'archevêque de Vienne et puis d'autres, se sont rencontrés en disant, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'il y ait un débat dans le concile. Et là, donc, la curie romaine, c'est toujours là le problème, prenait les choses en main, elle voulait conduire les choses comme elle l'entendait. Si bien que les évêques se sont rencontrés, et il y avait un monseigneur cardinal Lefebvre, c'est pas le même, hein, qui est archevêque de Bourges, qui était docteur ès lettres, et qui a bien préparé le texte en latin, parce que là-bas, il parlait latin. Hein? Si bien que le cardinal Liénard demande la parole. Celui qui précisait, c'était un français aussi, le séant qui cardinal Tisserand. Un Tisserand, non, c'est pas prévu par le règlement. Cardinal Liénard dit, je veux parler. Cardinal Tisserand dit, non, le règlement n'a pas prévu. Donc, le cardinal Liénard a pris le micro et il a parlé. Il a dit en latin, oh que schéma met-il en cachette, ce schéma ne me plaît pas. Alors, il a commencé à développer son affaire, et il a été applaudi par tous les évêques qui étaient là, les premiers évêques qui étaient là. Et ça a changé entièrement le visage du concile Vatican II, qui s'est fait un concile en débat à ce moment-là. Donc Lefebvre qui faisait partie du concile, on n'était pas d'accord avec la grande majorité des évêques. Ils ont été le petit groupe qui n'a pas accepté les décrets du Concile. Voilà donc un peu la source. Hein. Je crois que là, Vatican II avait ouvert justement cette église du débat. Et donc, et je pense qu'à l'heure actuelle, pour l'Église catholique, ça peut être bien fait, c'est-à-dire qu'il découvre un peu que on peut ne pas être d'accord avec certaines décisions du pape. Et que la réaction des épiscopats, parce que donc, puisque le Concile Vatican II avait mis très en avant ce qu'on appelle la collégialité, hein, c'est-à-dire, c'est pas le pape seul, hein, c'est l'ensemble des évêques en lien avec le pape de Dieu. Or, là, on fait l'expérience maintenant dans l'Église catholique de la collégialité, c'est-à-dire que les réactions des épiscopats montrent justement cette collégialité. Voilà, pour l'instant nous en sommes là, mais je crois qu'il est bon de dire quand même que le pape a réaffirmé hein, sa volonté. D'ailleurs, il dit, mais je crois que c'est intéressant aussi dans sa lettre, parce qu'il a parlé de l'unité, hein, quand il disait c'est au niveau de l'unité. Et alors, il a eu cette phrase que c'est donc comme geste de petite réconciliation, vous voyez, qu'il faut comprendre la main tendue aux antichrists. Et il ajoute que pour lui, la réconciliation avec les antichrists n'est pas sa priorité comme telle. Et il a souligné dès le début l'acte de son pontificat et d'affermir ses frères dans la foi. Et cela passe par un effort constant au service de l'unité. Et il dit, l'unité avec les autres chrétiens, mais aussi avec les autres croyants. Deux points, œcuménisme et dialogue interreligieux, au nombre des éléments auxquels les antéchrists, au fond, s'opposent le plus fortement. Alors là, vous voyez donc, si vous voulez, dans sa lettre, il montre aux évêques que là, c'est une petite partie hein, de cette unité, et que la véritable unité se construit dans le dialogue œcuménique et dans le dialogue interreligieux. Pardon ? Ah oui, excusez-moi. Dans le dialogue interreligieux. Voilà. Enfin, je fais un survol un peu de cette situation. Je crois que c'est intéressant.
Un tout petit détail. Ceux qui ne le savent pas, le prêtre négationniste
oui.
A fait sa déclaration dans quel pays ?
En Suède.
Et pourquoi ?
Ah, parce que s'il le faisait en Allemagne, il était condamné.
Et c'est parce que la Suède, c'est un des rares pays qui n'a pas reconnu l'État d'Israël.
Voilà. Ah, oui, oui, d'accord. Ah, oui, d'accord. Oui, oui. Oui. Donc, il y a toute une idéologie là-dessus.
C'est pas de détail.
Ouais. Ouais. Donc, si je comprends bien, ce prêtre, cet évêque-là, c'est un prêtre, c'est un anglican converti. Oui, Williamson. Oui. Voilà.
Merci Père Barthélémy, merci aussi Jean-Marc d'avoir aidé dans cette soirée. D'autant plus important nos réunions, parce qu'effectivement, même au bout de 40 ans, même au bout ici à Annecy depuis 25 ans que nous nous retrouvons avec des nouveaux visages et c'est formidable, il y a toujours, toujours à être extrêmement vigilant et malgré tout ici, il est certain qu'on ne se dit pas tout et chacun ne dit pas exactement peut-être ce qu'il a au fond du cœur, mais déjà en venant ici, il est certain qu'il y a cette ouverture, le dialogue, mais ça reste indispensable et vous-même vous devez aussi vis-à-vis de vos amis, d'autres, c'est pas défendre, mais c'est dire que nous avons tous le droit d'exister, d'avoir notre part de parole, d'idées, de pensées, et puis pouvoir surtout se rencontrer et échanger, apprendre à se connaître pour vivre dans le respect les uns des autres. Et lorsque nous avons entendu cela, il y a eu 2-3 amis ici, et même à l'extérieur du groupe, qui ont réagi très très vivement, en tout cas ici, entre autres une amie qui a vraiment réagi très très fort, qui m'a immédiatement téléphoné, qui était tout à fait offusquée, et d'autres aussi, et en tant que catholique, d'avoir entendu, vécu cela. Et c'est vrai que pour le monde juif, c'est douloureux. Et puis ça se passait mal, parce que c'était en même temps avec les événements de la guerre entre Israël et Gaza. Donc c'était Moi, j'avais l'impression, je vous dirais franchement, à cette période, c'était comme un peu une fin du monde, que tout allait recommencer, c'est-à-dire dans les événements d'avant-guerre, c'était terrible. Même si c'est important quand même, ça vient de loin, ça vient de haut, ça vient du pape, ça vient des instances les plus hautes et les plus responsables. C'est ce que tout à l'heure c'était dit dans la parabole. Et ça blesse énormément, c'est très touchant. Alors, merci, nous on est là, on continue ce dialogue, et l'Amitié judéo-chrétienne de France a bien réagi, et nous continuons à œuvrer en souhaitant que les instances plus hautes œuvrent aussi, que ça ne cesse jamais, jamais, on a trop besoin de cela. C'est Norbert.
Moi, je voudrais dire deux choses très différentes. D'abord, je voudrais saluer, je pense que je ne suis pas le seul, saluer le courage du père Barthélemy. Saluer le courage, oui, le courage de la clarté. Et puis, je voudrais dire que c'est un bonheur, et c'est très bien, je n'ai pas l'habitude de flagorner, parce que quand je ne suis pas d'accord, je le dis en termes non diplomatiques. Et ce n'est pas la première fois que je choque, mais je veux dire que c'est un bonheur pour nous, pour l'Amitié judéo-chrétienne, c'est un bonheur pour l'œcuménisme de vous avoir comme vice-président, et c'est une véritable espérance de vous avoir. Je pense que chacun de nous, chacune et chacun de nous ne peut que se sentir très honoré que vous soyez à nos côtés et que vous n'ayez pas utilisé la langue de buis. Voilà, et puis, tout à fait autre chose, je voudrais dire que la conférence de Jean-Marc sera mise sur le site, avant la fin de la semaine, sur le site de l'Église réformée, dont vous avez l'adresse, sachant qu'elle est écrite en majuscule, mais c'est en minuscule, dans la rubrique conférence, donc avant la fin de la semaine, elle sera sur le site, vous pourrez la réécouter. Je ne vais pas mettre, j'ai enregistré l'intervention du père Barthélemy, mais je ne vais pas la mettre parce que je ne suis pas sûr que à certains niveaux ce serait forcément très intéressant. Oui, oui, oui. Très bien, donc elle sera aussi. Merci alors pour le double courage.
Juste quelques annonces. Il y a des petits vols qui vont passer. Je suis désolée, dans la confusion de l'absence du rabbin, ça m'a quand même troublée. Et puis j'étais inquiète pour lui. J'ai oublié les petites boîtes. Merci pour les petits vols. Bon, voilà. Je voulais vous donner plusieurs informations. Il y a la semaine thématique qui va commencer dimanche